Moura Abassins. C'est un foncier que nous maîtrisions et nous remercions la collectivité, M. Bouc, de nous avoir fait confiance pour relever avec l'OGV, M. Baston, que je remercie d'être présent, un challenge, celui de réhabiliter ce quartier. On peut parler de mariage heureux avec l'OGV, puisque nous avons ensemble essayé de proposer plus qu'un programme immobilier, essayer de proposer un projet, un urbanisme que nous allons décrire tout à l'heure, dans le respect d'un territoire fort que va nous décrire la mairie de Bassins, d'un paysage que va nous décrire Sabine et d'un environnement très prégnant quand on le connaît, qu'on l'a parcouru. Pour ce faire, on s'est entouré d'un urbaniste, Michel Pétiolétan, architecte, et d'une paysagiste, donc Sabine Aristoy. Et nous avons essayé tous ensemble d'apporter une réponse globale, empreinte d'une mixité générationnelle, mixité d'habitat, mixité d'usage et d'une mixité fonctionnelle. C'est dans ce cadre que nous allons dérouler cette expérience, en laissant la place à M. Bouc qui va nous parler d'histoire, d'ambition de quartier et d'environnement. Tout à fait.
Merci Pierre. Effectivement, je ne dirais pas bonjour à tous. On s'est tous déjà dit bonjour. L'intervention que j'avais prévue, je la modifie un petit peu. Je ne vais pas vous parler de Bassins. J'avais prévu une petite introduction pour parler de Bassins, mais vous connaissez tous Bassins. Si ce n'est que les problématiques d'aménagement sont quand même liées au fait que 60% de la commune est couverte par la zone industrialo-portuaire, que nous avons deux PPRT et un PPRI, si bien qu'il ne reste que 40%, dont les lisières nord, et c'est l'objet ce matin de ces lisières. Alors, pour comprendre pourquoi nécessité... Je remercie l'organisation d'avoir fait cette annonce. Alors, donc, effectivement, il est intéressant de se repencher sur l'histoire du quartier dit du Moura. Effectivement, il s'est avéré, après-guerre, un certain nombre de personnes, de familles, vivaient dans des baraquements laissés par les Américains ou même les Allemands sur trois sites de Bassins, la Barranquine, près des hangars frigorifiques qui sont démolis depuis fort longtemps. Et donc, ces familles vivaient dans un état très précaire, sans aucun confort, sans sanitaire. Il s'est donc avéré rapidement de pouvoir reloger ces familles. Donc, dès 1965, une étude a été menée. La mairie a commencé d'acheter des terrains en 68. Pourquoi dans cette lisière nord? On peut se le dire entre nous, c'était peut-être aussi parce qu'il y avait du foncier qui s'était libéré, et peut-être aussi pour éloigner un petit peu, c'était peut-être la première erreur, éloigner ces familles qui avaient éloigné peut-être ces familles. Bon, peu importe. Donc la mairie se rend acquéreur de 13 hectares. De 13 hectares qu'ils ont rétrocédé petit à petit à ce qui s'appelait à l'origine l'habitat économique, qui était spécialisé dans le logement très social et qui depuis est devenu l'OGV. Ces travaux donc, commencent en février 70 et vous allez voir que ça a été fait quand même très rapidement, puisque en 1971, déjà, les premières familles emménagent dans ce quartier, dans un quartier complètement chamboulé, les voiries n'étant pas faites, c'était un petit peu dans l'urgence. Et ce qui, là, il y a donc 160 logements qui sont construits, dont 56 de transit et 104 en programme social de relogement. Et la particularité, mais Michel Pétolétan, qui est à côté de nous, ne fera pas cette erreur. La particularité de cette cité, c'est qu'elle est construite en cercle, on va dire en cul-de-sac. On imagine que peut-être à ce moment-là, les concepteurs voulaient rappeler peut-être les Bastides, de créer quelque chose qui puisse ressembler à une Bastide, mais c'en était loin. Et donc, de cette configuration en cul-de-sac, ben, vont découler quand même un certain nombre de problèmes, puisque l'appropriation du lieu par certains résidents, et notamment lors d'arrivée, puisque ça correspondait aussi à la réhabilitation de Mériadec, donc il y a un certain nombre de résidents de Mériadec qui sont arrivés sur Bassins. Et donc, avec cette configuration, on a créé en quelque sorte un ghetto, si bien que ce quartier, jusque dans les années 90, aura le surnom évocateur de Chicago. Chicago, et l'on sait bien que les médias ont aussi largement participé à cette réputation négative, malgré que une antenne sociale ait été créée dès le 1970, qui s'est rapidement convertie en centre social et qui était le point de rassemblement des familles qui se le sont tellement appropriées que c'était devenu leur chez eux, et c'était assez difficile de pouvoir faire une animation à l'intérieur de ce centre social qui a été mené pendant 15 ans par quelqu'un qui bien travaillé auprès des familles, et puis ensuite la CAF s'étant plus ou moins désengagée. Une répétition, succession de directeurs a fait que le centre social a périclité, faute de moyens, et a fermé en 2009. Et parallèlement, donc, parce que là, ça concerne aussi le secteur, en 1973 a été construite la salle, ce qu'on appelait à ce moment-là la RPA, RPA du Mourat, et qui est donc devenue en 2005 la résidence Laffut. Conscient des problèmes que posait ce quartier qui était devenu en quelque sorte, en faisant une cité complètement fermée, on a donc créé un ghetto. Est donc conscient des problèmes que ça pouvait représenter, dès 1985, une nouvelle réflexion a été menée. Et en 89, les travaux ont commencé. Ont commencé pour donner à ce quartier, et surtout pour l'ouvrir sur la ville. Donc à 90, 50 logements ont été détruits. 50 logements qui ont permis de pouvoir ouvrir des voies traversantes et donner à ce quartier une ouverture, un peu d'air, un peu de... Surtout que ce ne soit plus ce cul-de-sac que ce ghetto. Donc 50 logements sont détruits. En 93, 31 logements individuels sont construits. Et la particularité de ces logements qui existent toujours, c'est qu'ils ont bénéficié d'un programme d'État appelé réalisation expérimentale. C'est pour ça qu'on les appelle le bâtiment REX, réalisation expérimentale. Et ce programme d'État visait à favoriser les innovations techniques, organisationnelles, sociales. Et là, la particularité donc, de ce qui a été fait, c'est que c'était innovateur, bien sûr. Au-dessus des garages de chacune de ces maisons a été créée une pièce, une petite loggia, qui permettrait, dans l'esprit, de permettre aux jeunes adultes d'avoir un peu, de commencer de prendre un peu d'indépendance. Donc, et 12 pavillons aussi, en même temps. 12 pavillons ont été construits, mais par un autre bailleur qui est à Nice. 12 pavillons ont été construits rue Yves Montand. Et parallèlement à tout ça, bien sûr, le quartier a été transformé. Il n'y avait pas d'éclairage public, il a été mis. Il a été également créé terrain de foot, panneaux de basket, enfin, tout un ensemble d'équipements pour les jeunes. Et tous ces travaux ont permis, on peut le dire depuis 90, de permettre au quartier de retrouver un peu plus de sérénité. Mais dès 2010, déjà, une nouvelle réflexion s'impose. Le quartier vieillit, la résidence Lafut est vétuste, donc il est nécessaire de pouvoir déjà penser autre chose. Donc c'est une réflexion depuis 2010, vous voyez, on est en 2017 et on continue d'y réfléchir, mais bon, ça va bientôt aboutir. 2014, on fait une première présentation d'un pré-projet et qui correspond avec la création du Conseil citoyen pour une coparticipation, une co-construction, disons, de ce quartier, une co-réflexion. Le projet donc, qui s'affine va permettre effectivement, et l'enjeu surtout, c'est effectivement de pouvoir oublier, entre guillemets, oublier le passé de cette cité, en faire un quartier neuf, un quartier vivant, un quartier où la mixité sociale sera, pas un mot, mais quelque chose de très réel. À ce titre, on a été, par une directive de 2015, obligé effectivement de respecter cette mixité, puisque sur les 133 logements que nous détruisons, entre guillemets, et les 174 reconstruits, il n'est pas possible, à moins de dérogation, c'est ce que nous avons obtenu, je vous en dirai deux mots, il n'était pas possible de pouvoir réoffrir sur site des logements sociaux. Il était absolument nécessaire de pouvoir délocaliser, de refaire, de recréer cette offre dans un secteur écarté, qui ne soit pas dans le quartier prioritaire de la ville. Et c'est là où on a eu la chance, hein, des chances multiples. Des chances de rencontrer LP Promotion, de rencontrer Michel Petouletan, et avec Logévi également, de pouvoir construire, co-construire ce quartier tout en ayant l'acceptation d'une dérogation de 50 logements en loyers sociaux qui seront reconstruits sur place, les autres étant sur l'extérieur. Et nous avons eu la chance d'avoir ce foncier qui s'est libéré pour permettre une opération tiroir qui permettra donc de pouvoir reloger une partie des personnes sur l'extérieur du quartier politique de la ville. Voilà très rapidement brossé cette historique. Cette histoire qui fait que maintenant, nous souhaitons pour tout ce quartier, un quartier vivant, et ça, on n'en doute pas, on a vraiment la volonté d'aménager ces lisières nord d'une façon cohérente, et je pense que c'est bien parti. Ceci faisant partie d'un grand programme de réhabilitation, puisque la cité Prévert-Lemoura n'est qu'un élément de cette réhabilitation qui concerne presque 1200 foyers, puisque ça s'étend depuis la cité Beauval, les Sources, quartier Prévert-Lemoura, et puis la création d'un secteur économique qui est le quartier Prévost. Donc toute une ambition, tout un programme et toute une volonté de la municipalité de mener à bien ces opérations qui ne manquent pas aussi de travaux concomitants puisque cela nous oblige à restructurer les écoles, déplacer les équipements qui avaient été créés, je vous ai dit tout à l'heure, en 1993, et refaire toute la vie de ce quartier.
Merci, Monsieur Bouc, pour ce moment d'histoire. Parlons donc des problématiques et des enjeux de la réhabilitation. Et Mario Baston, directeur général donc de l'OGV, qui va s'occuper de cette partie.
Donc vous avez pu l'entendre, il y a plusieurs contraintes sur ce quartier. Alors l'OGV, qui était l'habitation économique à l'époque de la construction de ce quartier, l'habitation économique était plutôt centrée sur le développement de logements d'urgence, de logements pour personnes très défavorisées. Donc on a bien vu que ces constructions-là, elles étaient destinées à des familles très fragiles, hein, qu'il fallait reloger de façon urgente. Donc ce quartier s'est créé comme ça, l'habitation économique a créé donc des résidences qui se sont adaptées au fur et à mesure. Donc vous voyez qu'elles ont été développées depuis les années 60-70 avec donc un bâti qui a fortement vieilli. L'habitation économique et l'OGV n'ont pas engagé depuis ces dernières années de grosses réhabilitations. Donc le bâti, il est ce qu'il est, il est resté un peu dans son jus. C'est ce qui est un peu intéressant aussi aujourd'hui pour essayer de travailler sur ces bâtiments-là. Il y a cette fameuse RPA, l'ancienne RPA, qui a été construite en 1974 et qui permettait d'accueillir donc des personnes seules, des personnes âgées. Et qui a été déclassé en 2004-2005, je crois. Pourquoi déclassé ? Parce qu'elle ne répondait plus aux normes obligatoires en matière de services pour les RPA. Les RPA doivent avoir un foyer, des services apportés, donc elle n'y répondait plus à l'époque. L'équipe de l'époque de l'OGV, avec un accord avec la ville et le département, ont déclassé cette RPA. Mais toujours est-il que les gens qui y habitaient sont restés en place et les gens ont vieilli, ont continué à vieillir, et c'est toujours des personnes de plus en plus âgées qui sont sur site. Donc il a fallu réfléchir aussi au maintien de l'autonomie et de ces personnes-là sur le quartier en général. Alors sur ce quartier, plusieurs contraintes, hein, vous avez vu, donc du bâti vieillissant, une RPA avec des petits logements, avec des gens très vieillissants qui habitent ces studios, enfin c'est des types 1, hein, ça fait une trentaine de mètres carrés. Un quartier fermé, hein, monsieur Jean Lemaire l'a dit, puisqu'il a été construit comme ça, il était prévu comme ça, donc il ne s'ouvrait pas sur l'extérieur, avec une réputation qui avait bien changé, mais qui n'était pas très bonne pendant des années. Et puis, une opération qui a traîné un petit peu en longueur, parce que depuis, c'est vrai, ça fait des années que la discussion se porte entre l'OGV et la ville pour savoir ce qu'allait devenir ce quartier-là, sachant que plein d'autres opérations, plein d'autres sites ont été maintenant réhabilités ou renouvelés. Il ne reste plus que celui-là, hein, en gros, sur ce périmètre-là. Donc l'OGV a réfléchi, a tergiversé. Bon, ce n'était pas facile parce que le coût est important. Et il y avait le choix, soit réhabiliter le secteur, hein, en conservant ces bâtiments ou en démolissant, en reconstruction sur le même site, ou alors en trouvant des solutions un peu plus vastes et en prenant un peu plus de recul. Bon, on a été un petit peu, de toute façon, forcé à réagir puisque la réglementation ayant changé, on ne pouvait plus démolir et reconstruire sur site. Monsieur Jean Lemaire a rappelé que la ville a obtenu une dérogation pour reconstruire 50 logements sur site, ce qui permet quand même de maintenir une partie des reconstructions sur ce site-là. On va aussi réhabiliter une partie des logements, mais la grande opération et la particularité, c'est ce qui est aujourd'hui intéressant à présenter, c'est que la ville, la collectivité, a souhaité ouvrir sur un périmètre beaucoup plus vaste et travailler en partenariat. Alors le bailleur social, un promoteur qui se trouve être LP, qui a pu se saisir d'un certain nombre de fonciers qui se sont libérés, ça a permis d'ouvrir beaucoup plus de solutions sur ce vaste quartier qui, en fait, était un quartier fermé sur lui-même. Et tant mieux, Parce que si, il y a quelques années, on avait choisi, l'OGV avait choisi de faire du renouvellement urbain classique et de la démolition-reconstruction sur site assez classique, ce serait resté assez contraint, finalement. Et on n'aurait pas eu cette chance de s'ouvrir un petit peu sur un périmètre beaucoup plus vaste. Alors, bien sûr, la difficulté, c'est que les familles veulent absolument aujourd'hui rester dans leur quartier. Même si c'était un quartier difficile et que c'était petit Chicago, les familles étaient finalement, on se sont habitués, les gens veulent souvent rester sur site, ils ont vieilli là, ils ont vu leurs enfants grandir et ils n'ont pas envie d'en changer. Surtout pour les personnes âgées qui occupent des petits logements, c'était compliqué de leur faire imaginer de partir sur d'autres secteurs, mais le travail qui a été fait, c'est justement d'expliquer que le quartier restait un grand quartier, plus vaste, plus ouvert, avec des logements beaucoup mieux adaptés, mais qu'ils allaient avoir la possibilité de rester dans leur périmètre et de continuer à côtoyer les mêmes familles, les mêmes amis, les mêmes commerces. Et c'est la chance qu'on a eue pour l'OGV de pouvoir travailler sur les opérations, puisque finalement, les opérations sont travaillées, les programmes se sont travaillés justement pour répondre à cette demande-là. Le maillage du quartier aussi a pu être travaillé à la fois donc, en mixant totalement ce type de programmes. Et ça, effectivement, si on n'avait pas eu ces contraintes-là, on ne serait peut-être pas arrivé à un résultat aussi intéressant, avec les contraintes financières qui restent fortes, puisque vous savez qu'on n'a plus tellement de subventions en rue, toutes ces choses-là, c'est dépassé. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions financières propres, à la fois avec la ville et puis à la fois pour l'OGV en fonds propres. Mais là, sur le document que vous avez affiché, on voit bien qu'on a trouvé des moyens de reconstruire un certain nombre d'îlots qui fonctionnent bien ensemble, parce que justement, on avait la possibilité de trouver des solutions à l'extérieur grâce au promoteur LP, promotion. On a donc deux à la fois du locatif qui répond aux besoins des familles, de l'intergénérationnel à l'extérieur avec LP qui répond aux besoins des seniors, de l'accession sociale, parce qu'on fait partie d'un groupe qui s'appelle Action Logement, et dans le groupe Action Logement, il y a Domo France qui fait l'accession sociale par sa filiale, etc. Et donc, il va y avoir de l'accession sociale aussi pour des familles qui peuvent acheter leur logement. Il va y avoir aussi toute une bande de maisons que LP va développer aussi pour permettre à des familles qui en ont les moyens ou qui souhaitent rester acheter sur site de rester implantées là-dessus. Et puis toute la partie aussi déplacement des salles communes, déplacement des équipements de la ville qui vont rester sur site aussi, hein, mais qui seront déplacés. Et donc ce quartier va se construire finalement autour d'une solution vaste et qui répond aux demandes des uns et des autres, et des familles, à la fois de la collectivité, de l'OGV, parce que l'OGV a besoin de ne pas perdre de logements en termes de programmation, parce que pour équilibrer les opérations et pour que nous, on puisse s'en sortir, il fallait pouvoir retrouver du logement. Et pour répondre aussi aux particularités de cette population qui vieillit. Alors l'OGV, c'est aujourd'hui le spécialiste du logement senior, donc ça, on est tout à fait imprégné par ça, et trouver des solutions de logement adapté, ce qu'on appelle logement intergénérationnel, avec des... puisque sur des résidences que LP développe pour nous, il va y avoir des espaces communs où les familles, du lien social va se créer. Donc finalement, on va avoir pu répondre aussi bien que possible aux attentes des uns et des autres. Ce qui n'était pas simple au départ, mais on l'a bien vu, hein, pour en terminer, lorsqu'on a fait cette fameuse réunion publique avec le maire, bon, les familles, aujourd'hui, elles ont bien compris que ce qui les attendait, c'est quelque chose de plus intéressant, de mieux, de plus serein dans la vie de quartier. Et ça, aujourd'hui, c'est parfaitement accepté au niveau des occupants et des familles dans le quartier. Voilà. Après, il reste toute la période compliquée de déplacement des familles, de relogement, de démolition, reconstruction, un peu ces opérations tiroirs qui vont se faire, ce qui n'est jamais simple. Mais cette vision un petit peu d'ensemble avec un partenaire, hein, avec un partenariat et une négociation qui s'est faite dans les meilleures conditions possibles, dans l'intérêt général finalement, hein, de tous, hein, ben aujourd'hui on est arrivé à quelque chose qui n'est pas au départ et qui n'était pas forcément gagné. Voilà.
Merci. Je crois qu'on a bien compris les problématiques et les enjeux de cette réhabilitation. Bien compris que la population est très ancrée à ce quartier. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Michel Pétoétan et Sabine Aristoy de travailler sur comment pourrait être cette extension, ce futur quartier, dans le respect, encore une fois, de ce territoire, qui est un territoire, vous l'avez compris tout à l'heure, qui est très prégnant sur Bassins.
Merci. En ce qui nous concerne, nous avons été très heureux de participer à ce vaste chantier, avec toute l'histoire que vous avez rappelée, M. Bouc, et toute la problématique de ce quartier qui est au sud du terrain que LP a pu maîtriser. Et c'est grâce au fait que LP a pu maîtriser un terrain assez vaste, comme l'a dit M. Baston, qu'on a pu envisager les réponses à la problématique. Alors nous, notre réflexion, enfin comme on fait d'habitude, c'est d'aller voir le site, d'aller le visiter le matin quand les gens partent au travail, à midi et le soir. D'ailleurs, comme je traînais dans les rues, les gens se demandaient qu'est-ce que je faisais, notamment dans le quartier qui est au sud du Mourat. Et je me suis rendu compte que nous étions, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, à la lisière de l'agglomération de Bassins. On voit sur cette image les territoires maîtrisés par LP dans une première phase. Et on peut rester sur cette image. Et nous avons au sud la rue du Mourat, qui va vers un croisement, un rond-point important qui va vers Ambarès. Et à gauche, la rue de la Pomme d'Or, qui monte avec un petit défilé à un moment donné, avec des vieilles maisons, on va les voir tout à l'heure, et un beau chêne, qui évidemment gêne un peu la circulation, mais est-ce qu'il faudra, pour moi, il faudrait le garder. Et en haut de cette rue de Pomme d'Or, une ancienne propriété, malheureusement à l'abandon, qui est un reste de ce que fut ce territoire au Moyen-Âge, puisqu'il est occupé dès après le Moyen-Âge par des grandes familles bordelaises qui venaient là s'installer dans des châteaux, qu'on appelle des châteaux, et cultiver du vignoble. Et quand on va à proximité de cette maison, il y a un chemin qui n'est pas emprunté, mais que l'on voit en haut, qui est un chemin courbe, qui partage le territoire entre au nord des vignes et des vignes qui vont sur un terrain qui monte un peu, mais qui descend, c'est-à-dire on a une vision lointaine, importante, et on voit bien que ce chemin revient vers la rue du Lavoir, qui n'est pas une rue, en fait, qui est une impasse avec quelques maisons qui se sont construites un peu au hasard. Voilà. Et puis, à l'est, on a une continuité de territoire qui fut cultivé, mais qui ne l'est plus pour partie. Et le long de la rue du Mourat, au sud, nous avons là deux vieilles maisons assez belles, malheureusement mal restaurées, mais qui montrent encore que là, il y avait une espèce d'occupation du territoire par de belles maisons et de grands espaces cultivés. Une fois qu'on a pu se promener sur tout ce territoire, on a pensé que dans le projet futur, et selon le PLU, on peut voir l'image suivante, PLU, là on voit en rouge le territoire dont nous parlons, on voit en jaune les territoires qui sont urbanisables et en blanc les territoires qui sont à vocation agricole et viticole. On voit un peu au nord du rouge un territoire jaune qui est déjà construit et qui est après la propriété, qui est sur un versant nord de cette butte. Donc, en me promenant sur ce chemin, j'ai constaté qu'il y avait ce qu'on appelle un grand paysage au nord, mais aussi un grand paysage, on verra une image après, un grand paysage vers le sud-ouest, où on voit la Garonne, et on voit bien sur cette image, là, oui, on peut revenir sur... Voilà, et que le territoire était à la lisière de ce qu'on pourrait appeler la fin de l'urbanisation du centre-ville de Bassins, et de la lisière avec le paysage historique, ce paysage de vigne. Et qu'il fallait que notre projet, qui est sur un point haut, qui domine la rue Lafayette et les immeubles actuellement propriété de l'Ogévi, ce territoire, quand on est sur ce terrain, en bas, on est au niveau de la rue de Mourat, puis vite on monte, et que là, on a une vue vers l'histoire, une vue vers le bourg, avec le clocher et avec tous les éléments qui entourent le clocher. Or, cette vision, un peu telle que le cahier Glatini, le clocher et le village autour, elle existe parce que les immeubles assez hauts sont dans la dépression du terrain. Et donc, quand on est sur ce toit, sur cet espace, sur ce point plus haut, on a cette vision de Bassins, la ville de Bassins, l'histoire de Bassins. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait privilégier et cette vue vers la ville, pour dire j'appartiens, quand j'habite là, à la ville, je ne suis pas un truc posé dans la campagne n'importe où, et que notre projet soit en continuité des systèmes vières actuels, mais pas du système vière automobile, mais du système vière piéton voie douce. Et qu'arrivé en haut, on puisse s'ouvrir sur le grand paysage et que le chemin qui existe, qui est bordé de vieux chênes assez splendides d'ailleurs, puisse être la lisière, mais une lisière en même temps promenade. C'est-à-dire si j'habite dans ces espaces-là, je vais vite à la ville par ma bicyclette, je vais vite au commerce qui est un peu plus bas, et je vais pouvoir, par cette promenade, faire cette lisière qui est entre la partie habitée et la partie paysanne. Alors, c'est la vieille lisière, c'est le chemin que faisaient les premières personnes qui ont commencé à construire des villages. Ils faisaient un fossé pour se protéger des envahisseurs. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. Hein. Ce n'est pas un élément de protection, mais c'est un élément d'ouverture, c'est-à-dire conforter la ville, la terminer à ce point-là et l'ouvrir sur son histoire. Voilà un petit peu notre thème. Alors, une fois qu'on a eu analysé tout le système vière qui est compliqué, il y a une rue. Alors, le territoire, là, il est très clair. Vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est une voie SNCF qui est contraignante, ne serait-ce que par son bruit, et qui est en même temps une coupure, parce qu'il faut la franchir par quelques passages qui passent dessous. Et tout de suite après, entre la Garonne qu'on voit à gauche, et c'est tout ça, c'est une zone industrielle. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, il y a l'emploi à côté de l'habitat. Et ça, c'est très bien, parce que les gens, par là, même en bicyclette, il y a 300 mètres, 500 mètres, peuvent aller dans les entreprises, travailler et revenir très rapidement dans les habitats. Et vous avez quelques poches qu'on voit mal parce que le vert ne passe pas toujours en PowerPoint. Il y a quelques poches d'espaces verts qui sont bien heureusement assez bien placés et qui seront conservés. Et donc, notre thème, c'était comment, à partir du quartier qui est en mutation, c'est le rond rouge, et le quartier résidentiel qui est à l'est, qui est plus bourgeois, pardon de l'expression, mais qui sont des gens avec des maisons assez belles et des jardins et qui ne voudraient pas voir une mutation venir perturber leur tranquillité. Et notre territoire de LP, comment on peut assurer la mutation de ce quartier en offrant des espaces et des bâtiments, pour parler d'un terme vulgaire, des bâtiments, et permettre d'être en relation. Donc, quand on regarde ce quartier, nous avons la première photo en haut à gauche qui est l'arrivée depuis la rue du Mourat et qui continue par la rue de la Pomme d'Or, avec là un établissement viticole d'ailleurs, qui est vinicole, qui est un commerce de vin, hein, un peu grossiste. Hein. Voilà. Et puis, si la photo de droite, c'est quand on prend la rue du Mourat, il y a des petites maisons. Puis après, on a un espace qui est libre à droite, où vous avez vos espaces dont vous avez parlé, où les jeunes font du skate, ou font des paniers de basket, etc. Et à gauche, on voit tout de suite une ouverture, et c'est par là que nous allons aller. Mais quand on continue ce chemin qui monte, on a à droite, à côté de ce que j'ai appelé les résidences, un espace qui n'a pas été bâti, qui est resté avec des arbres, qui est assez beau, et qui vient bien épauler cette voie montante. Puis, à gauche, on voit la photo, pour deuxième ligne, de ce malheureusement bâtiment à l'abandon, hein, qui avait été acheté par plusieurs Bordelais pour y faire là un lieu de rencontre, de loisirs, etc. Puis qui n'ont pas abouti, n'ont jamais eu le permis de construire, si je crois. Leurs intentions n'ont pas abouti.
Et non, parce que c'est tout simplement qu'au moment où ils ont acheté, est venu quelque chose de nouveau, c'est-à-dire le périmètre de sécurité de Michelin, qui depuis a été réduit, mais ils ont été frappés d'interdiction de réhabiliter 2 ans après de l'avoir acheté.
Alors, ce château est assez remarquable. Et il y a une très belle grille, d'ailleurs. Et il est, non pas à l'inventaire des monuments historiques, mais les ABF souhaiteraient qu'on en tire parti. Ce n'est pas notre but. Mais à l'est, on voit ce chemin. C'est la photo du centre, qui est un chemin qui n'est pas tracé, qui est un chemin qui n'est peu utilisé, d'ailleurs, très peu, et qui est bordé de magnifiques arbres. Et quand on regarde vers le sud, on a l'arbre que j'ai pris en premier plan avec la vigne derrière. On a cette vue sur le village avec le clocher qui est dominant. Et il n'y a pas de... Il y a le château d'eau, mais en dehors du château d'eau, il n'y a rien qui dépasse. Et on voit bien cette butte avec le centre de Bassins. Et on verra tout à l'heure une photo. Quand on regarde plus à droite, on a ce très grand paysage avec au fond Bordeaux. Donc notre thème, c'était de créer ce regard vers la ville, cette vue sur le grand paysage, et de trouver un cœur de projet où on pourrait avoir une petite place qui pourrait servir de marché, où il pourrait y avoir peut-être quelques commerces, pour pouvoir créer un cœur d'îlot vivant. Et là, on y arriverait par une allée très plantée. Les voitures pourraient y passer pour que les gens puissent y accéder à leur immeuble, leur appartement, mais qui serait surtout privilégié par une voie piétonne qui le borderait, qui traverserait l'opération et viendrait rejoindre au nord ce chemin qui passe sous les arbres existants. Le paysage est fait, il reste à compléter, bien sûr. Et il y aurait un maillage automobile qui s'arrête là, et on croise un maillage voie douce qui vient finir la lisière de Bassins. Voilà la thématique. Et dans l'angle de la rue Pomme d'Or et de la rue du Mourat, à la place de l'entreprise vinicole, on referait un bâtiment avec des commerces, parce que là, c'est très bien placé, et d'autant plus qu'il y a encore des projets qui vont venir. Donc, on peut passer à l'image suivante. Voilà. Donc là, c'est une première étude qu'on avait fait à la fin de l'année 2016, début 2017. Et on a été un peu présomptueux, ou tout au moins, disons, on a cherché à voir comment tout le quartier pourrait muter, sachant que LP ne maîtrise que la partie qui est à l'ouest, c'est-à-dire à gauche. Mais comment cette voie qui est bleue, qui serait une voie automobile, on en aura besoin pour les pompiers et pour d'autres raisons, puis revenir sur un embranchement très large, pour ne pas faire très urbain, sur la voie qui va vers Ambarès. Et puis, il y a quelques petites maisons qui restent. Et c'est l'idée du programme, elle est là, avec une liaison vers le quartier sud, le quartier dont on vient de parler, on en serait une continuité. Les premiers bâtiments qui sont dessinés en rouge clair seraient du R+1, pour ne pas venir faire une modification brutale du paysage urbain. Puis R+2, puis on termine par R+3, partiellement, puis après on redescend quand on va vers le grand paysage. Et dans la partie haute, sur ce croquis déjà, on voit apparaître la volonté de faire une espèce de place qui est un peu pincée, mais dans notre projet final, elle n'est plus pincée, qui va s'ouvrir sur le grand paysage. Et là, on va reporter un city park, un espace où les enfants, les adolescents pourront venir jouer face à ce grand paysage, et loin d'une urbanisation un peu trop dense qu'il risque de perturber le soir tard. Voilà pour le projet que nous avons proposé à M. le maire, à vous, M. Bouc, et sur lequel nous travaillons, nous avançons sur ce projet-là.
Sabine. On voit du paysage, c'est donc à vous. Le thème de cette exposition, le paysage métropolitain.
Moi, je voudrais replacer le projet dans un contexte un peu métropolitain. Sur cette première carte, le petit point rouge représente la parcelle d'études. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la rive droite, il y a un réel enjeu territorial, paysager, qui est lié à la remarquable qualité des coteaux. Alors, on voit s'inscrire en vert l'importance du paysage des coteaux qui aujourd'hui fait partie de, qui a complètement été identifié sur le territoire métropolitain. Et puis un ensemble de parcs aussi qui vient se greffer en limite de la commune de Bassins, qui vient se greffer aussi vers Carbon Blanc, enfin, et qui se termine sur les marais de Saint-Louis de Montferrand, qui se trouve sur la partie nord de la carte. Donc il y a un contexte paysager qui est très intéressant et qui est aujourd'hui un petit peu oublié, mais qui devient de plus en plus significatif et qui est reconnu par Bordeaux Métropole. Et donc tout ça pour dire que le projet lui s'inscrit sur ce territoire et que c'est très important et qu'il a une réelle qualité paysagère, comme l'a signifié Michel Pétiolétan, avec la présence de vignobles, de parcs, de vallonnements. Donc voilà une carte assez simplifiée. Surtout, on voit l'importance des prairies qui jouxtent le territoire d'études. En vert foncé, vous avez les masses boisées qui sont en limite de la propriété. Et signifier aussi les petits... Enfin, je vais attendre parce que... Et les petits cheminements que vous voyez en pointillés représentent toutes les liaisons, les traversées qui seraient qui sont intéressantes et qui seraient susceptibles d'affirmer dans le cadre de notre étude. Donc voilà, aujourd'hui, Bassens évolue. Bassens s'implante de plus en plus sur son territoire paysager et se désenclave, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. Mais nous, on a cette volonté, avec la possibilité de ce projet, de désenclaver le territoire de la ville haute de Bassens, de venir se rattacher à un contexte historique, mais aussi à un contexte paysager. On peut venir sur la... Voilà. Donc là, voici la parcelle d'étude. Donc, comme on l'évoquait précédemment, l'organisation spatiale des bâtiments s'ouvre sur le paysage nord de Bassens, avec ce grand vallonnement d'étendue de vignobles. Au sud, on a plutôt la partie historique de la ville, avec le quartier du Mourat et le quartier Logévie. Et il y a quelque chose qui se met en place, c'est-à-dire que nous, on a voulu affirmer cette liaison nord-sud, mais aussi on a voulu affirmer, dans le cadre de cette opération, la mise en place d'activités, enfin, qu'on ait une espèce de fil conducteur sur aujourd'hui, il y a des pôles d'activité, des petits équipements qui se trouvent au sud, c'est de pouvoir les prolonger et de traverser ce territoire d'études. De pas seulement faire qu'ils soient cloisonnés, mais qu'ils viennent se désenclaver avec la possibilité d'avoir une extension de l'urbanisation à l'intérieur de la résidence avec une place urbaine. Et on serait dans une espèce de continuité. Donc c'est un espace qui s'ouvre sur le public, mais à l'échelle de Bassens. Et puis de venir de manière beaucoup plus douce et plus apaisée, continuer une espèce de parcours au nord, débouchant et s'ouvrant sur le territoire viticole, avec des équipements de terrains ludiques qui viennent dans la continuité de ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, donc nous on a travaillé sur le plan paysager, bien sûr, en essayant de reconduire cet environnement vert qui existe aujourd'hui avec des étendues prairiales et une volonté aussi de faire en sorte que cette parcelle soit boisée le plus possible pour retrouver cette densité qui existe aujourd'hui aussi en limite de la parcelle avec le parc Beauval. Ensuite, on a voulu reconduire des parcours piétons et aussi venir se rattacher à des parcours cycles qui vont être mis en place qui aujourd'hui s'identifie plus ou moins depuis la gare de Bassens, mais l'idée c'est de venir prolonger tout ça. Voilà, alors quelques images de référence pour illustrer le propos, avec une volonté de densifier, de végétaliser, de proposer des équipements et surtout de proposer des parcours piétons et des parcours cycles, des parcours mobilité douce. Voilà.
Merci à tous. Le jeu des questions-réponses. Pauline, as-tu une question ? Je te prends au hasard dans le public. Je crois qu'on doit laisser M. Baston qui a une conférence. Merci à vous, M. Baston. Et bonne conférence. Les questions ne sont pas une obligation. Bon, si personne ne se lance, merci à tous. Oui, Michel.
Oui, juste peut-être me permettre d'avoir une question. C'est qu'on a travaillé, Mathieu, mon pétulétant architecte, qui a travaillé avec Sabine Aristoy, on a essayé d'associer dans le même but nos deux réflexions. Et ce que a dit Sabine tout à l'heure était exactement ce que nous voyons aussi. Et donc, à la limite, il y a une image qui est passée très vite, c'est de faire comme un parc, quoi. C'est ce que tu as dit d'ailleurs, et que sur certaines images, on puisse encore, voilà, sans atteindre ça qui est un jardin qui est au milieu d'une ville, mais que le l'intérieur, on ait une végétation assez dense, de manière à effacer pratiquement l'architecture et les bâtiments dont on ne veut pas qu'ils soient un élément marquant du paysage. D'ailleurs, monsieur le maire avait bien insisté pour ne pas qu'on monte trop haut, qu'on reste assez bas, de manière à ce que notre projet se noie dans la masse du paysage. Et que les éléments dominants qui sont au nord, le cèdre que j'ai montré et tout à l'heure, et le chêne, dominent notre projet. Comme tu l'as dit, on traverse notre projet à travers un paysage plutôt qu'à travers des rues.
Oui, je voudrais insister sur ce que disait Sabine Risteuil. C'est notre volonté municipale de garder un bassin sain, l'esprit d'une ville verte. Il faut savoir que même, ça a été exprimé tout à l'heure, si le PLU permettrait de faire beaucoup plus dans la densification, notre position géographique fait que Bassins, c'est l'interface entre ce qu'on appelle l'entre-deux-mers, entre la campagne, c'est la dernière ville vraiment urbanisée après Lormont. Et donc, ce rôle d'interface, on doit le respecter. On doit aussi offrir aux résidents de Bassins, tout à l'heure, j'ai insisté sur effectivement le fait que 60% de la commune était couverte par une zone industrielle portuaire. Je pense qu'en compensation, on doit offrir aux résidents, à ceux qui choisissent Bassins, une certaine quiétude, beaucoup d'espace vert. Et je n'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, mais il est vrai que nous avons cette grande coulée verte qu'on appelle le parc des Coteaux, qui part de Beauval et qui termine à Florac, la Burte, qui au total représente un peu plus de 400 hectares de verdure, de coulée verte, qui fait l'objet d'études et de plans de gestion et qui est aussi classé en zone ZNIEF, c'est-à-dire zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Donc c'est un label qu'a ce parc des Coteaux. Et tout cet esprit, on tient à le conserver. Et c'est vrai qu'on est obligé, malheureusement, de ne pas satisfaire toutes les demandes toutes les demandes de densification qui sont bien sûr bien naturelles, à mesure où Bassins s'intéresse beaucoup de monde, notamment depuis la LGV. Les Parisiens s'intéressent aussi au secteur.
Le nouveau pont.
Et puis le nouveau pont. Ouais, ouais. Donc tout ceci fait que nous sommes obligés de résister aux pressions. D'autant plus qu'on a presque plus de foncier. Vous allez utiliser là pratiquement notre dernier espace foncier important. Mais vous l'utilisez intelligemment. On a bien co-construit tout cela. Je vous en remercie.
Non, c'est bon. Nous avons été tous très heureux de travailler ensemble. C'est parfait. Ce n'est que le début. Il va falloir s'y mettre. Merci à tous.